Les aides financières versées par l'État depuis le 13 mai se chiffrent déjà à 50 milliards de francs CFP. L'État qui confirme qu'il va continuer d'accompagner la Nouvelle-Calédonie. Le Palika estime avoir été viré du FLNKS et prendra la décision en novembre de se maintenir ou non au sein de la coalition indépendantiste. Les pompiers de SIVM Nord et de la sécurité civile restent mobilisés sur les feux de brousse sur les communes de Koumac et Calagomène. La décision de Carouya de remettre en route son réseau de bus met en péril le service aux usagers, selon la présidente du SMTU Naya Watéou, qui prévoit une remise en service de Tanéo au 1er octobre. Une aide incitative au covoiturage, elle est proposée à partir d'aujourd'hui dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité par l'ADEME et la CE. Et puis le sport et les mondiaux de stand-up paddle au Danemark, les Calédoniens seront en finale cette nuit pour nous. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. L'État va continuer à accompagner la Nouvelle-Calédonie pour sauver son économie. Le secrétaire général du Haut-Commissariat Stanislas Alfonsi et le directeur général des finances publiques David Litvan dressaient ce matin le bilan des aides financières mises en place par l'État depuis le 13 mai et elles se montent, Gilles Ménage, à 50 milliards de francs.
Dès la première semaine des émeutes, au cœur d'une insurrection d'une intensité inédite et face à des destructions massives qui ont notamment valu à la Nouvelle-Calédonie de perdre 30% de sa capacité de production, l'État est intervenu très tôt, avec d'abord un certain nombre d'urgences en faveur des collectivités, des services publics, des entreprises et des salariés, a rappelé David Litvan.
On a eu deux phases, une phase d'urgence pour 35 milliards de francs sur la période juin à août, avec les mesures les plus immédiates, et puis une seconde phase, septembre-octobre, qui vient d'être annoncée, pour un montant de 15 milliards. Donc au total, on a effectivement 50 milliards, 400 millions d'euros, ce qui est tout à fait considérable. Il y a des échanges permanents qui ont lieu avec les administrations centrales, avec les acteurs locaux, bien sûr le gouvernement, les collectivités locales, le monde économique, pour déterminer les meilleures solutions. Et c'est ce qu'on a pu faire jusqu'à présent dans cette crise exceptionnelle. Ensuite, il va falloir effectivement regarder comment se projeter pour la suite. Et c'est là tout l'enjeu du plan de réforme du gouvernement, le schéma dit SESR, sauvegarde, refondation, reconstruction.
Un chômage partiel, RUAM, Enercal, une aide financière très importante donc qui se décline sous forme de subventions ou d'avances remboursables, mais dans un contexte budgétaire national extrêmement compliqué, il a fallu trouver des écritures comptables et nul ne sait d'ailleurs à ce stade comment ces avances ou ces prêts seront considérés par la suite. Toujours est-il que ces aides doivent nécessairement s'accompagner de réformes dont le territoire a besoin depuis longtemps, même si l'État ne pose pas de conditions, affirme le secrétaire général du Haut-Commissariat Stanislas Alfonsi.
Nous ne sommes pas dans une démarche de conditionnalité, nous sommes dans une démarche d'accompagnement. Nous savons que des grands sujets de politique publique sont en grande difficulté depuis très longtemps en Nouvelle-Calédonie. Nous voyons que ces difficultés ont été accrues, ont été aggravées avec la crise que nous connaissons depuis le 13 mai. Nous voulons nous saisir de cette circonstance pour en faire une opportunité pour aider le territoire à évoluer. Nous lui apporterons le soutien technique et évidemment, dans la mesure des moyens qui pourront être mobilisés, le soutien financier pour pouvoir accompagner ce mouvement de réforme. Pas seulement parce que l'État apporte de l'aide et qu'il veut conditionner, ce n'est pas ça l'idée. C'est parce que le territoire en a besoin. Et il n'y a pas de conditions, il y a un accompagnement et cet accompagnement se poursuivra.
Une volonté de réforme qui a mis en lumière deux initiatives locales en matière de réforme. Le plan de sauvegarde de refondation et de reconstruction, le PS2R préparé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le plan quinquennal adopté par le Congrès. L'une est structurée, l'autre un peu moins, estime le secrétaire général.
Il y a une démarche qui est structurée de la part du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au travers de ce plan S2R qui vise à identifier des grands sujets de politique publique qui nécessitent une aide et qui nécessitent également des réformes et des évolutions indispensables pour la bonne marche du territoire. Cette façon de faire nous semble à la fois en méthode et en exécution une bonne méthode, une bonne manière de voir les choses et une bonne manière de les faire. Pour autant, l'autre initiative que vous citez qui est issue d'une délibération adoptée par le Congrès, on ne les pense pas de manière concurrente. Il y a d'une part une méthode qui est structurée et qui fonctionne et un travail qui est accompli maintenant depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Et puis il y a d'autre part une méthode qui est une démarche qui est plus usuelle, je dirais, avec une demande de soutien qui est exprimée, une demande de soutien massif, mais un travail qui reste à accomplir sur le plan de la structuration, de la mise en œuvre de cette aide. Donc pour nous, il n'y a pas de concurrence entre les deux. Il faut que les institutions calédoniennes trouvent les moyens de la complémentarité entre les deux démarches.
Avec la dernière tranche d'aide de l'État de 13 milliards validée hier par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, l'aide totale se monte donc à 50 milliards de francs depuis le 13 mai. Et cette aide va se poursuivre sans attendre la conclusion d'un éventuel accord politique sur l'avenir institutionnel, souligne Stanislas Alfonsi.
Les deux préoccupations, la préoccupation du dialogue politique et la préoccupation de la reconstruction et de l'aide économique au territoire, sont potentiellement liées. On ne peut pas les disjoindre de manière absolue, bien entendu. Néanmoins, il ne faut pas subordonner la démarche de reconstruction, la démarche d'aide à la reconstruction économique du territoire, de ses services publics, la pérennisation du service qui est apporté aux Calédoniens. Il ne faut pas subordonner tout cela à la reprise d'un dialogue politique qui devra reprendre et que nous souhaitons tous, mais qui potentiellement devra ou ne pourra s'échelonner que sur un calendrier peut-être plus long. Nous pensons que l'urgence du moment nécessite que nous agissions, sans pour autant subordonner l'un à l'autre. Ensuite, les deux se retrouveront, se rassembleront, convergeront, mais on ne peut pas attendre que le dialogue politique se renoue, que l'offre politique se restructure et que cela débouche pour se dire « eh bien voilà, maintenant on peut discuter d'une aide au territoire pour sa reconstruction ».
La priorité de l'État est donc de chercher à identifier les besoins de la Nouvelle-Calédonie en matière de financement pour la totalité de l'année 2025. Il faudra ensuite trouver le moyen de les inscrire dans le projet de loi de finances qui doit être soumis à l'Assemblée nationale avant la fin de l'année.
Et notez que c'est Anne-Gabrielle Guébélil, directrice adjointe de la police nationale, qui sera demain notre invitée du matin à 7h30. Elle sera interrogée sur l'ordre public à Nouméa 4 mois après le 13 mai et sur la façon dont la police se prépare dans la perspective de la date du 24 septembre. Et puis demain midi, vous avez rendez-vous avec le jeudi de l'économie. Il sera consacré au plan S2R et à la vision qu'en ont les acteurs économiques. Nous parlerons de ce plan de sauvegarde, rénovation et reconstruction préparé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en compagnie de la présidente du MEDEF, Mimsy Delay, du président de la FINC, Xavier Benoît, et de Stéphane Yoto, le vice-président de la CCI. Le Palika a le sentiment d'avoir été viré du FLNKS, mais il considère qu'il est toujours l'une des composantes du front. C'est l'un des points qui était à l'ordre du jour de son Assemblée Générale Extraordinaire réunie samedi à Koné, Elisabeth Noir.
Le Palika a dressé ce matin le bilan de cet AG extraordinaire et il est d'abord revenu sur le congrès dit du FLNKS à Koumac, un congrès qui s'est déroulé selon lui sous la forme du groupe UC et nationaliste sans l'UPM ni le Palika, et au cours duquel Christian Théien a été nommé président du FLNKS. Des décisions qui ne l'engagent pas, affirme le Palika, par la voix de l'un de ses porte-parole, Judicael Selefen.
À la sortie de ce rendez-vous, le Palika, ce qu'il dit, c'est qu'on ne reconnaît pas ce congrès du FLNKS. Les décisions qui ont été prises ne nous engageaient déjà pas, et vu le contenu des décisions qui ont été prises, le parti ne se retrouve dans aucune décision qui a été prise. Mais on reste une composante du FLNKS. Donc le constat qu'on peut faire à la sortie de ce rendez-vous de Koumac, il ne faut pas se faire d'illusions. Ben, nous, le constat qu'on fait, c'est qu'on s'est fait virer du FLNKS.
Le Palika estime donc avoir été viré du FLNKS, mais pour autant il considère qu'il est toujours une composante du front. Les explications de Judicael Selefen.
Au jour où on se parle là, le Palika est toujours une composante du FLNKS. Et donc il attend de voir à son congrès de fin d'année pour voir ce que le parti va décider de sa situation au sein du front.
Mais pourtant vous dites que vous avez été viré.
Oui, c'est le constat que l'on fait, puisque les composants du FLNKS ont décidé d'organiser un congrès sans nous. Donc clairement, ils étaient informés de notre absence et ils ont volontairement choisi de le faire. Donc on considère que oui, on s'est fait exclure du front.
Et vous ne vous sentez pas engagé par les décisions qui ont été prises à Koumac?
À partir du moment où on n'était pas présent, à partir du moment où les ordres du jour ont été décidés sans nous, non, on n'est pas engagé par les motions qui ont été prises. Et le contenu des motions aussi nous fait dire qu'on n'est pas concerné et le parti ne se reconnaît pas dans les décisions qui ont été prises. Notamment la nomination du président, la reconnaissance de la CCAT et tout ce qui est inscrit dans la motion, on ne se reconnaît pas dans ces décisions.
Le Palika décidera lors de son congrès de novembre s'il reste ou non membre du FLNKS. Mais en attendant, il ne participera plus aux réunions hebdomadaires, aux événements et aux autres mobilisations de la coalition indépendantiste, dont il dénonce une instrumentalisation lors du congrès de Koumac. Pour lui, le FLNKS n'est plus à la hauteur et il est arrivé au terme d'un cycle dans la lutte de libération. Le Palika se retrouve en revanche dans une démarche unie avec l'UPM pour promouvoir une indépendance avec partenariat. Autre thème abordé par l'Assemblée Générale Extraordinaire, le changement de majorité au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Le Palika y voit notamment un vote sanction à l'égard de Rock Ouamitan.
Clairement, c'était une élection qui, derrière ça, on peut constater un vote sanction et une volonté de changer la majorité qui était en place. La question qui est majeure pour nous, c'est est-ce que cette nouvelle majorité va nous permettre de sortir de la crise ? Parce que c'est la préoccupation du parti aujourd'hui, c'est-à-dire sortir de la crise. Et on se pose la question, est-ce que cette nouvelle majorité sera, elle, alignée sur tous les textes pour sortir de la crise ?
Et vous, pour sortir de la crise, vous n'approuvez pas le plan quinquennal qui est proposé par les autres groupes ?
Non, on soutient le plan proposé par le 17e gouvernement. Et l'enjeu, c'est de pouvoir rassembler un rapport de force politique suffisamment fort pour porter ensemble le plan que présente le gouvernement.
Le Palika qui reconnaît que l'aide de l'État est indispensable pour la sortie de crise, mais il regrette que la Calédonie en soit réduite à réclamer 500 milliards de francs à l'État, alors que l'accord de Nouméa avait permis, selon lui, d'atteindre une phase de quasi-indépendance.
Situation toujours compliquée pour les feux de brousse en province nord. Le plan Orsec feu de forêt de niveau 2 est en vigueur depuis hier soir, Michael Juneski.
Oui, un hélicoptère bombardier d'eau de la sécurité civile a rejoint aujourd'hui les équipes mobilisées sur les incendies qui sévissent entre Koumac et Kaalagomène. Les soldats du feu ont continué de travailler durant la nuit pour tenter de prendre le contrôle de ces feux toujours attirés par les vents forts. Écoutez, le maire de Koumac, Wilfried Weiss, il a appelé la population à la plus grande vigilance.
Il y a une interdiction de feu qui est sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Et à partir du mois de septembre, on a la saison des feux qui démarre. L'interdiction formelle de tout feu, même un feu pour faire des grillades dans le jardin, etc., c'est interdit. Un feu, ça peut très vite partir. Et la deuxième chose, c'est que je demanderai aux gens de protéger leurs habitations, c'est-à-dire de nettoyer les alentours, de faire en sorte que si on doit intervenir avec des engins autour de certaines habitations, qu'on puisse le faire. Parce que bien souvent, les maisons qui ont des risques, ce sont les maisons où la végétation est à 1 ou 2 mètres à côté des murs ou à côté des tôles, quoi. Donc, à un moment donné, on ne pourra pas protéger les habitations, quoi.
À la sortie de Kaalagomène, les flammes de bord de route qui avaient provoqué hier la fermeture de la RT1 ont été maîtrisées, ce qui a permis la réouverture de la circulation. Mais les feux poursuivent leur progression, notamment en approche de la zone de Karembé à Koumac, où se trouvent de nombreuses habitations, ce qui a concentré aujourd'hui le plus gros des efforts des équipes sur place. Je rappelle donc que le plan Orsec feu de forêt de niveau 2 a été déclenché hier à 17h30. Étant donné la complexité de la situation, une habitation a été partiellement brûlée, plusieurs centaines d'hectares de végétation sont déjà partis en fumée. Le travail des pompiers et de la sécurité civile continue sur le front des incendies et d'autres feux sont également surveillés de près par les équipes des pompiers et de la sécurité civile en province nord.
Et puis deux volontaires du RSMA engagés sur l'incendie de Koumac, ces deux sapeurs-pompiers volontaires, stagiaires du régiment de service militaire adapté, ont vécu leur première épreuve du feu en brousse, Sarah Mégerie.
Pour leurs 5 semaines de stage obligatoire, Chania et sa collègue ont eu l'occasion de mettre en pratique toutes les techniques qui leur sont enseignées pendant leur formation. Une première aventure d'envergure puisque ce feu s'est propagé sur plus de 1000 hectares et menace aujourd'hui une cinquantaine d'habitations. Les volontaires travaillent sur place depuis 2 semaines. Chania raconte la réalité du terrain.
Au tout premier, je suis arrivée, j'hésitais un peu, j'étais là. Lui disait que j'allais vraiment éteindre un vrai feu, enfin. Mais voilà, il fallait que j'y aille. On arrive, on est dans la fumée, dans la cendre. On a que de la flamme sur nos masques. C'est chaud. Et voilà, on fait avec. On est là pour ça, surtout qu'il y a des habitations aussi, il faut qu'on protège. Il y a des lances pour protéger le autour. On éteint d'abord les lisières pour pas que le feu se propage. Quand le camion est vide, ben, il faut trouver un poteau pas loin pour remplir encore le camion, revenir et éteindre les feux. Ça peut durer toute la journée, ça dépend en fait de la propagation du feu. C'est fatigant, tellement que tu es sur les feux, on ne mange pas. Ça demande beaucoup, mais c'est pour le bien du pays aussi, pour nous.
Sur place à Koumac, les sapeurs-pompiers volontaires du RSMA sont sous commandement de la sécurité civile. Toute l'équipe intervient au profit des casernes de pompiers. L'expérience des deux stagiaires sur le terrain permet de faciliter leur insertion dans les casernes après leur formation. L'adjudant Pierre, formateur au RSMA.
Les deux stagiaires que j'ai que des bons retours de la caserne des pompiers de Koumac. Puisqu'ils ont fait des interventions sur de nombreux feux. Le fait qu'elles soient disponibles en bonne condition physique, parce qu'au RSMA, on fait beaucoup de sport, ce qui permet de les garder en bonne forme et d'améliorer leurs compétences physiques, permet à mes stagiaires de rester longtemps sur les interventions et être et durer en bonne santé sur toutes les interventions. Les jeunes qui viennent au RSMA veulent apprendre un métier et ils sont tous dévoués à vouloir être sapeurs-pompiers volontaires et équipiers de sécurité civile. En Nouvelle-Calédonie, il y a y a de nombreux feux, accidents de la route et bien d'autres choses. Et les casernes des pompiers ont besoin de personnel formé pour pouvoir intervenir efficacement sur les interventions.
Les moyens et effectifs du RSMA déployés pour l'opération à Koumac sont un camion-citerne, deux formateurs et deux volontaires techniciens qui aident également à la formation des stagiaires.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, la multiplication des départs de feu intentionnels dans le Nord traduisent-ils selon vous une stratégie de déstabilisation? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 67% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que le consensus ne va pas être possible entre les représentants des institutions d'une part et les forces vives d'autre part autour du plan quinquennal de demander à l'État. Ils sont 33% à penser à l'inverse, que ce consensus sera possible. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Et puis cet appel à témoins lancé par la gendarmerie à Marais pour comprendre les circonstances exactes de la mort d'un homme d'une cinquantaine d'années le 18 juillet dernier. Son corps avait été découvert au bord de la route à Raux, à une centaine de mètres du site où se tenait une coutume de deuil et au lendemain d'une coutume de mariage. Il était connu pour se déplacer à pied. La cause d'un accident est désormais privilégiée par les enquêteurs. Deux mois après cette découverte, les investigations se poursuivent. La gendarmerie de Tadine appelle toute personne ayant des informations à contacter la brigade au 45 53 00, le 45 53 00. 18h01, nous marquons une première pause dans ce journal avant de développer la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie. On parlera d'abord du SMTU qui reproche à Karouya d'être passé en force et prévoit une remise en service du réseau Taneo au 1er octobre. A tout de suite.
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, Cheyenne raconte une histoire aux tout-petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dôme, la boutique des tout-petits. Petit Dôme, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dôme, on n'hésite plus, on y va.
En cas d'urgence, chaque seconde compte. Choisissez la confiance, choisissez les ambulances Saint-Jacques 24h sur 24, 7 jours sur 7. Rapide, fiable, il n'y a pas de jour sans les ambulances Saint-Jacques. Votre sécurité est notre priorité. Téléphone 25 27 27.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
Info soir, Isabelle Pelletier.
La décision unilatérale de Karouya de remettre en route son réseau de bus fait courir au SMTU un risque de faillite et met en péril le service aux usagers. C'est le message de la présidente du SMTU, Naya Ouattéou, Charlotte Coulson.
Des écoles, des édifices publics et des magasins incendiés, des quartiers désertés et des salariés qui ont perdu leur emploi. La cartographie des réseaux de bus Karouya et Car Sud et leur clientèle ont été complètement transformées par les émeutes déclenchées le 13 mai dernier. Naya Ouattéou.
Le premier message, c'était de rappeler qu'il s'est quand même passé quelque chose le 13 mai et que les incidences et les dégradations des émeutes ont eu un impact considérable sur la Nouvelle-Calédonie, sur le Grand Nouméa et sur Nouméa. Ce sont des destructions de bâtiments, d'infrastructures publiques, ce sont des pertes d'emplois considérables, ce sont des actions qui ont complètement mis à terre l'économie calédonienne et le quotidien des Calédoniens et qui viennent aussi impacter le transport dans son ensemble. Cette violence qui a été ressentie de tous, elle s'est aussi abattue sur le SMTU, avec des dégradations sur son réseau. On est à un peu plus d'un milliard de dégâts chiffrés sur nos locaux qui ont été incendiés, sur nos agents qui ont été agressés. Donc ça nous impose aujourd'hui cette nouvelle réalité qui est de dire que le réseau tel qu'on le connaissait le 13 mai est foncièrement modifié.
Et ne tenant pas compte de cette nouvelle réalité qui appelle à une révision du service proposé et des tarifications, et en passant en force, Karouya met en danger le SMTU, un danger structurel et financier puisque son fonctionnement est prévu en doublon avec celui de Car Sud, actuellement en cours de restructuration.
Cette reprise qui est faite sans concertation, alors que la veille, les équipes du SMTU et les équipes du GIE sont en discussion pour travailler cette reprise à l'horizon du 1er octobre, vole complètement en éclat. Aujourd'hui, Karouya explique qu'il apporte des solutions. Il n'apporte pas de solutions, il vient même créer des problèmes supplémentaires. On le voit avec le retour de certains usagers qui ne comprennent pas comment s'est opérée cette reprise, qui ne comprennent pas que sur des modalités techniques de rechargement de leur passe, et bien aujourd'hui ils ne peuvent plus recharger leur passe, qu'on les oblige à prendre des tickets alors qu'ils ont des passes sur lesquelles ils sont crédités. Tout ça, en fait, crée un dysfonctionnement général et vient perturber cette reprise. Et puis, en plus de créer ces problèmes sur les usagers, on vient carrément mettre en péril l'ensemble du réseau de transport tel qu'il est aujourd'hui. Lorsque Carouya nous impose une reprise sur la base d'un réseau qui est celui du 13 mai, ça vient complètement modifier l'offre et la réalité de ce qu'on a aujourd'hui.
Pour l'heure, et selon un premier bilan, la fréquentation des lignes Carouya flirte avec les 10% seulement et rapporte 800 000 francs par jour contre 4 millions avant le 13 mai. Naya Watéou appelle donc Carouya à revenir à la table des discussions pour participer à la mise en place d'un réseau réellement adapté aux besoins du public.
C'est d'arrêter de mentir à la population et aux usagers. Parce qu'encore une fois, le réseau tel qu'il est aujourd'hui n'est pas celui du 13 mai. Et ça veut dire que derrière, il faut qu'on puisse retravailler ce nouveau réseau. Et il n'est pas trop tard. Et j'invite vraiment Carouya à revenir à la table des discussions, à pouvoir organiser cette reprise qui aujourd'hui n'est pas efficace. Il nous faut prendre ce temps de pouvoir réorganiser les équipes, de pouvoir réorganiser les équipements, de pouvoir finaliser ces contrats pour être financés à la juste mesure. Encore une fois, il y a ce qu'on veut. Et il y a ce qu'on peut.
La reprise effective du service SMTU est fixée à la date du 1er octobre.
Les navettes maritimes ont pu naviguer normalement cet après-midi. Le trafic est perturbé depuis quelques jours en raison de conditions météo. Plusieurs bateaux ont notamment été endommagés en accostant au Vallon d'Or, Charlotte.
C'est le cas du Coral Palme qui était en maintenance hier. Le Maridé également a subi quelques dégâts mineurs et était en réparation. Il ne pouvait pas naviguer ce matin à cause de la forte houle qui empêche l'accostage sécurisé au wharf du Vallon d'Or. Les conditions météorologiques compliquent les manœuvres des navires sur ce quai particulièrement exposé, comme l'explique Richard Monnier, chargé de mobilité à la Province Sud.
Oui, en effet, il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur vent et le facteur houle. Actuellement, pour 2-3 jours, on a une houle du sud qui est assez importante et donc qui rend très difficile les conditions d'accostage au niveau du ponton, qui est très exposé justement pour les houles du sud. Il est adapté à l'accostage des gros bateaux. Par contre, il est très exposé. Sur Moselle, par exemple, on est dans une marina, donc il y a une protection, ce qu'il n'y a pas du tout au niveau du Vallon d'Or. On a étudié une solution pour rajouter des pneumatiques au niveau des pieux du ponton pour améliorer la protection des bateaux quand ils viennent accoster, pour éviter justement qu'ils viennent trop taper sur la structure rigide du ponton. Là, une intervention a été programmée, mais elle n'a pas pu se réaliser par rapport justement également aux conditions météo. Et en même temps, il faut caler les créneaux horaires par rapport à la forte activité qu'il y a sur le ponton pour éviter tout risque d'accident avec la collectivité.
Le Maridé a finalement pu reprendre la mer cet après-midi. Les navettes sont a priori maintenues demain. La Province Sud a d'ailleurs mis en place depuis hier un groupe WhatsApp dédié à l'infotrafic des navires d'urgence.
RB 18h08.
1000 francs offerts si vous covoiturez, c'est en substance ce que proposent l'ADEME et la CE à l'occasion de la semaine de la mobilité. Une aide incitative pour apprendre à se déplacer autrement, Mickaël Juneski.
Oui, selon l'ADEME, le constat est clair, on est le plus souvent seul dans son véhicule et on fait alors de l'autosolisme. Selon l'ADEME, une démarche contraire à la volonté générale de vouloir réduire son empreinte carbone, c'est ce qu'explique Caroline Nicolo, représentante territoriale de l'ADEME en Nouvelle-Calédonie.
On a 40% des déplacements du quotidien qui font moins de 5 km. Et quand on est sur une distance de moins de 5 km, il y a peut-être d'autres solutions qui existent pour se déplacer. C'est ce qu'on essaye de promouvoir au cours de cette semaine. Pour nous, l'enjeu, c'est de développer des actions qui permettent de réduire l'empreinte carbone, de diminuer nos gaz à effet de serre, que ce soit les particuliers, les entreprises, les collectivités. Je rappelle que le secteur du transport, il est fortement contributeur en fait, des émissions de gaz à effet de serre. C'est le premier au niveau national et en Nouvelle-Calédonie par rapport à l'organisation du territoire et la forte présence des industries lourdes. C'est le deuxième secteur émetteur de gaz à effet de serre, donc c'est aussi pour ça qu'on travaille sur cette question-là.
Et c'est pour lutter contre ces comportements que des applications comme Ouigo ont été créées. Lancée avec succès à Tahiti en juin dernier, l'application calédonienne est officiellement disponible depuis aujourd'hui. Et pour inciter à avoir un comportement plus éco-responsable, la CE et l'ADEME créditent 1000 francs aux nouveaux usagers, voire même 2000 francs aux étudiants lors de la création d'un compte sur l'application. Pierre Hénaff est le cofondateur de Ouigo.
Alors avec 1000 francs, en sachant que c'est 10 francs du kilomètre, qu'on est à peu près à 10 km par trajet,
réaliser 10 trajets pour faire du covoiturage. Donc c'est pas négligeable pour le quotidien, ça permet d'inciter les gens à commencer le covoiturage et d'impulser ce covoiturage. On peut prendre un trajet en covoiturage jusqu'à un arrêt de bus, puis continuer ensuite vers son lieu de travail. On peut continuer à pied, on peut prendre un vélo, on peut tout imaginer. On rentre dans ce qu'on appelle l'intermodalité, c'est-à-dire faire un trajet de son domicile à son travail en prenant plusieurs transports en commun ou transports tout court.
Les prix au kilomètre sur l'application sont fixes et pour bénéficier de cette offre, pas besoin de code promo. Il suffit de créer son compte, il n'y a pas non plus de limite de temps.
La CE qui se satisfait du taux d'occupation de ses navettes en direction de Ninbo et de l'UNC. Depuis mi-juillet, l'Agence calédonienne de l'énergie a mis en place ce projet pilote au départ de Port-Moselle afin d'aider au déplacement les travailleurs et les étudiants. Déjà 5000 usagers ont effectué une liaison. Celle en direction de l'université est la plus prisée avec un taux de remplissage de 40%. Explique Jean-Christophe Rigoual, directeur adjoint de l'ACE.
Aujourd'hui, on constate une forte appétence, notamment des étudiants calédoniens. Alors, ça vient aussi du fait que le système de transport public terrestre était défaillant sur ces derniers mois. Mais néanmoins, on voit le retour de satisfaction de la part des transportés parce qu'on leur offre aujourd'hui un moyen de locomotion qui est plus ludique puisqu'ils utilisent des voies maritimes, qui est rapide puisqu'ils mettent 10 minutes pour partir de Moselle et arriver au 1881. Et derrière, un coût aussi, là aujourd'hui, on a un ticket qui est à 100 francs le trajet pour aller jusqu'à Nouville et qui est à 200 francs pour aller jusqu'à Ninbo. Et voilà, donc on a mis un petit peu les moyens pour que ce dispositif soit utilisé par un maximum de personnes.
La CE travaille à améliorer le confort et l'espace des navettes. L'objectif est également de tendre vers une réduction d'émissions de gaz à effet de serre en installant par exemple des moteurs électriques. On revient à la politique avec cette réponse de la présidente du Congrès à la chef du groupe Les Loyalistes qui l'informait hier de la décision de son groupe de ne pas participer au déplacement prévu à Paris. Elisabeth Noir.
Nous vous parlions dans nos précédentes éditions de cette lettre de François Suvet à Velma Falaeo, dans lequel elle expliquait que les loyalistes renonçaient à participer au déplacement du comité interinstitutionnel demandant l'adoption d'un plan quinquennal de reconstruction et d'accompagnement de la Nouvelle-Calédonie par l'État. La présidente du Congrès déplore que François Suvet motive cette décision de dernière minute par l'absence de participation du PALICA à ce déplacement. Alors écrit-elle que la position du PALICA est tout sauf une surprise, puisque ce groupe politique est le seul à s'être abstenu lors du vote de la résolution, comme lors de l'installation du comité interinstitutionnel. Quant au fait que les loyalistes considèrent que cette délégation ne se rend pas en métropole au moment opportun, la présidente du Congrès souligne que la constitution du prochain gouvernement doit intervenir à la fin de cette semaine au plus tard. Velma Falaeo relève aussi que le gouvernement doit déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale le projet de loi de finances 2025 au plus tard le 15 octobre prochain et qu'il lui semble indispensable de mener en amont le travail de sensibilisation pour obtenir les inscriptions des crédits nécessaires au budget de l'État pour le financement du plan de reconstruction. Elle indique enfin que le comité interinstitutionnel a l'intention de rencontrer l'ensemble des groupes politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat sans aucune exclusive. Velma Falaeo qui insiste donc sur l'absolue nécessité d'un déplacement en urgence à Paris et elle regrette que cette opportunité de matérialiser cette unité de reconstruction tant attendue par les Calédoniens à travers le Congrès ne soit finalement pour les loyalistes qu'un acte manqué. Fin de citation.
Merci Elisabeth, il est 18h13. Une seconde pause dans ce journal avant de développer le reste de l'actualité avec une saisie record de méthamphétamine en Australie et puis l'actualité sportive calédonienne. On se retrouve après une page de pub.
Savez-vous que quand plusieurs appareils sont branchés au même endroit, il est préférable de les brancher sur une multiprise équipée d'un interrupteur ? On peut ainsi couper l'alimentation de tous les appareils d'un seul geste.
Retrouvez toutes les astuces EcoConso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Isabelle Pelletier.
Avec l'actualité régionale, dans l'État australien du Queensland, la police fédérale a procédé à l'arrestation de 3 individus impliqués dans l'importation d'une large quantité de méthamphétamine liquide d'une valeur à la revente estimée à près de 30 milliards de nos francs. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Âgés de 30, 35 et 43 ans, les 3 dealers qui seraient membres d'un syndicat international du crime avait projeté d'importer 1300 kg de méthamphétamine liquide dans des bouteilles de jus de fruits dont le contenu avait été remplacé par la drogue au Brésil. Censé être réceptionné à Brisbane, le chargement avait transité par Vancouver, où la police canadienne, en ayant découvert le contenu, lui a substitué une substance inerte avant d'en informer la police fédérale australienne. Une fois les fausses bouteilles de jus de fruits arrivées à destination, en l'occurrence un entrepôt de la banlieue de Brisbane, les agents fédéraux ont arrêté leurs trois destinataires, lesquels ont été inculpés pour trafic de stupéfiants, un crime passible de la prison à perpétuité. À Sydney, Jean-Pierre Saint-Jacques, RRB.
Le sport et à la une de l'actualité sportive, les mondiaux de stand-up paddle. Les Calédoniens espèrent à nouveau monter sur les podiums à l'occasion de la compétition qui se déroule au Danemark, Michael Juneski.
Noïc Garriou qui disputera le titre sur la Technical Race après avoir remporté ses deux séries sur les eaux du Danemark. Clément Colmas aussi sera en lice pour tenter de finir sur le podium face aux meilleurs mondiaux dans cette discipline. Et puis le cadet des frères Garriou, Vaïk, est également de la partie. Il tentera lui aussi de terminer en tête de la finale junior après avoir gagné les épreuves deux années de suite. Toujours chez les juniors, comme sur la sprint race d'ailleurs. Titouan Pouillot, l'ancien cadre de l'équipe de France et multiple champion du monde de stand-up paddle, ne participe pas à ces mondiaux, pour la première fois d'ailleurs depuis 2014, mais il suit de près les prestations de nos représentants engagés avec les Bleus. On écoute Titouan Pouillot.
C'est sûr, ils ont fait une belle entrée dans leur compétition, c'est toujours important parce que ils arrivent d'un long voyage juste avant, un nouveau pays, des nouvelles conditions, donc ils ont l'air d'avoir plutôt bien réussi cette première étape. Les qualifications, on va pas dire que c'est pépère, mais voilà, ça permet de se placer. Il faut, entre guillemets, juste se qualifier pour aller en finale. Mais voilà, il faut quand même faire le boulot d'être devant pour avoir une bonne place sur la ligne de départ. Et c'est chose faite puisqu'ils sont dans les premiers. Noïc qui est même premier, donc il aura le choix de se placer où il veut. Mais sur la ligne, ça a sa petite importance. Puis Noïc qui fait le boulot aussi. Clément qui est dans les temps pour un podium. Donc on peut vendre la peau de l'ours en disant qu'on est quasiment sûr d'avoir un podium. Et bien sûr que les médailles d'or sont à leur portée. Ouais.
Pour la première année, vous n'êtes pas de ces mondiaux après quasiment une décennie avoir été au plus haut niveau mondial, suivre tout ça à distance, qu'est-ce que ça vous fait?
Oui, c'est une ambiance, une équipe, un staff que je connais bien, c'est sûr. Mes premiers, c'était en 2014 au Nicaragua. Mais voilà, ça fait plaisir de voir que les Calédoniens brillent, ça fait plaisir de voir les sourires sur les images, les bonnes ambiances, et puis quand même quelques messages d'amis qui me disent « Oh là là, où tu nous manques ?» Donc voilà, ça fait plaisir. Moi, je sais que je leur ai mis le pied à l'étrier à un moment donné quand ils étaient jeunes, mais maintenant, ça y est, ils sont autonomes, ils ont entre guillemets plus besoin de moi, et tant mieux. Non, c'est des athlètes complets. De voir qu'il y a trois Calédoniens en équipe de France, ça fait plaisir. Et c'est vrai que le CTE, la Ligue Calédonienne de Surf, il continue à faire le boulot. Et puis, Benoît Rivière, il suit ça avec attention là, tous les soirs, j'en suis sûr.
Voilà pour la réaction de Titouan Pouillot. De grandes chances donc de nouveaux titres dès ce soir. Les finales à suivre aux environs de 22h40 et 23h40 pour nous. Les mondiaux de stand-up paddle qui se poursuivent toute la semaine à Copenhague, au Danemark.
Le football, la sélection féminine des moins de 16 ans s'est inclinée en demi-finale du tournoi océanien.
Pas d'exploit pour nos représentantes qui se sont inclinées face à la sélection des îles Samoa. 2-0. Elles manquent la finale et surtout la place qualificative pour le mondial de leur catégorie d'âge, puisque seules les deux premières équipes de la compétition régionale partiront au Maroc l'année prochaine. Kenji Van de Goo, leur entraîneur, souligne tout de même le beau travail accompli jusqu'à cette demi-finale océanienne au micro de l'OFC.
Je voudrais dire merci à toute la famille, au travail qui a été fait, voilà, à toutes les familles des filles, et à tous les clubs, les éducateurs, le département technique. Voilà, merci à tout le monde pour le travail. Et voilà, il nous reste une marche encore à progresser, à prendre, mais on est une jeune équipe et on va travailler pour voir ça.
La compétition se déroule à Suva, aux îles Fidji. Les Calédoniennes joueront encore le match pour la troisième place samedi face aux Tonga, alors que les Néo-Zélandaises défendront leur titre en finale.
Cédric Do se prépare à remonter sur le ring, c'est le week-end prochain en kickboxing.
Quasiment un an après avoir remporté une ceinture européenne face au Portugais Basso Pires chez les moins de 75 kilos, le Calédonian Fighter repart à l'assaut du Glory, la plus grande franchise mondiale du kickboxing. Ce sera en Croatie lors de la soirée du Glory Chlori 95. À 29 ans, notre représentant qui totalise 34 victoires sur 41 combats, dont 21 victoires par KO, figure actuellement au 12e rang mondial. Ce sera surtout pour lui un challenge relevé pour celui qui a vécu en un an une blessure, une fracture d'un os du métacarpe, puis les émeutes sur le territoire et donc un programme de préparation largement perturbé, avec notamment 3 combats ratés en raison du blocage de l'aéroport de la Tontouta, dont celui qui aurait pu l'amener vers une ceinture mondiale WACO. Il fera donc son comeback face au Croate Filip Matic sur ses terres à Zagreb. Ce sera dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 3h du matin pour nous.
Merci Mickaël. Et puis un mot de trail sur le territoire avec un rendez-vous prévu samedi 6 octobre prochain. Le trail Bois du Nord de Conné. On écoute les précisions de Laure Papin du Challenge Organisation.
On est content, bien sûr, de pouvoir de nouveau proposer des événements sportifs et de trail en Nouvelle-Calédonie. On est content de reprendre. Là, on sera sur un trail avec lequel on s'associe avec Bois du Nord pour une course avec un format un petit peu différent. On est sur le plateau de Tango. On a 3 courses, donc on va avoir un 15 km pour les sportifs plus aguerris. Une petite rando familiale autour de 5 km. Et puis la grosse nouveauté, c'est un parcours à obstacles avec une dizaine d'obstacles sur 2,5 km. Des obstacles un peu naturels qui sont proposés par Bois du Nord qui va les avoir conçus entièrement. Ça nous tient vraiment à cœur là, d'essayer de relancer, d'avancer, de continuer à proposer des choses. Voilà, on fait avec nos moyens qui sont tous revus à la baisse évidemment en ce moment. Mais on pense que c'est important de maintenir la mairie de Conné, la province Nord, les tribus qui nous suivent là-dessus. Tout le monde nous a dit qu'effectivement financièrement c'était compliqué mais que tout le monde a plein de bonne volonté.
Rendez-vous est donc donné samedi 6 octobre à Conné. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes sur le site de Challenge Organisation ou bien au magasin Terre de Running à Nouméa. Une bonne nouvelle pour Sylvie de Dambéa qui a envoyé mardi à 10h09 RRB par SMS au 40-20. Avec ce 1500e SMS depuis le redémarrage de notre jeu, elle remporte la somme de 100 000 francs en bons d'achat à dépenser où elle veut, quand elle veut. Et pour ceux qui n'ont pas gagné, patience, tous les SMS envoyés sont remis en jeu pour le tirage du million. N'hésitez donc pas, vous non plus, à tenter votre chance en envoyant RRB au 40-20. 18h21, c'est presque la fin de ce journal. On va passer à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et on voit tous les détails de cette météo avec vous, Nicolas.
Oui, alors cette nuit, des éclaircies se maintiendront sur le sud. Ailleurs, de nombreuses plaques de nuages bas associées aux bandes de nuages d'altitude recouvriront le ciel, donnant quelques averses sur le nord-est et la pointe nord. Sur le nord-est et la pointe nord, le vent d'est-sud-est soufflera entre 15 et 20 nœuds. Les températures minimales seront stables et resteront fraîches pour la saison, comprises entre 16 et 21 degrés, localement entre 12 et 14 degrés sur l'ouest. Demain matin, sur l'ouest, le soleil s'imposera largement après la dissipation des bancs de nuages en début de matinée. Sur les autres régions, les nuages seront plus tenaces. Sur l'ouest, le vent sera tout d'abord faible, puis il s'établira autour de 10 nœuds de sud à sud-est. Sur les autres régions, il sera orienté au secteur est, généralement proche de 10 nœuds, sauf sur la pointe nord où il se maintiendra entre 15 et 20 nœuds, Isabelle.